Bonjour à chacun. Je m'appelle Séverine et puis j'ai le privilège d'accompagner Philippe ce matin pendant ce culte. Alors j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans cette église. Bienvenue dans cette fin de semaine qui a été contrastée en émotions pour l'église. Que vous soyez accueillis avec les émotions du jour. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il y avait Jean-Claude et Licha Saillant dans la salle. Bienvenue. Il y a sûrement plein d'autres personnes qui sont nouvelles ou de passage. Soyez aussi la bienvenue parmi nous. Alors ce matin, j'ai appris une très bonne nouvelle. Philippe, je ne sais pas si tu es au courant, mais on part tous faire de l'acrobranche aujourd'hui. Vous êtes prêts? Comment ça, seulement les potes? Mais justement, Nicolas, justement, on est tous potes, non? Enfin, moi, j'ai des potes dans la salle. J'ai Léonard, j'ai Anne Paulet, c'est mes potes. Je vais partir faire de l'acrobranche avec eux. Non? Non? Oh. Que les enfants! C'est vrai, vous allez faire de l'acrobranche? Sans moi? Pas toi. Ben, moi non plus, j'y vais pas. Ah ben, je suis jalouse. C'est pas juste. Moi, je me réjouissais de faire de l'acrobranche avec Paul Robert, avec mon grand-papa Armand, avec ma maman, ma fille. Mais vous partez avec Naëla sans moi? Je suis déçue. Et je suis super jalouse. Ça vous arrive à vous d'être jaloux? Le sentiment de jalousie, est-ce que ça arrive aux adultes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Hein? Et les enfants, des fois, on peut être jaloux?
Pas tout le temps.
Pas tout le temps. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de me donner un exemple où on pourrait se sentir jaloux? Ah, vas-y. Ah, quand nous, on ne reçoit pas de cadeaux et quand quelqu'un d'autre en reçoit. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une autre idée? Ah, quand un frère veut faire un câlin et que nous, on ne peut pas. Mm-hmm. Ah, quand quelqu'un peut regarder un film et que nous, on ne peut pas le regarder. Ça, c'est le vécu, hein? Est-ce qu'il y a d'autres idées de sentiments de jalousie qu'on pourrait avoir? Les adultes, vous avez des idées aussi? Non? Alors, moi, j'ai fait une petite enquête auprès de mes élèves, parce que je suis enseignante. Et puis, j'ai des élèves de l'âge de 6 ans. Et je leur ai demandé, quelles sont les situations où tu peux te sentir jaloux? Est-ce que vous avez envie d'entendre quelques-unes de leurs réponses? Alors, il y a un enfant qui dit, quand ma petite sœur est en train d'apprendre à marcher et mes parents ne font pas attention à moi, je deviens jaloux. Ou quand je joue avec mon frère et qu'il gagne toujours, je deviens jaloux. Quand ma meilleure copine va goûter chez quelqu'un, je deviens jaloux et je lui dis que je ne jouerai plus avec elle. Quand c'est l'anniversaire de ma sœur et qu'elle reçoit beaucoup de cadeaux, je deviens jalouse. Ou bien quand ma maîtresse choisit un autre élève pour répondre à la question, je deviens jaloux. Ou quand mon frère aîné va chez ses grands-parents, je deviens jaloux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent jaloux ou envieux? Hein? Est-ce que vous avez des idées? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le dire. Mm-hmm. Dire, je me sens jaloux. Une autre idée? S'enfermer dans la chambre. Alors, j'ai demandé à mes élèves, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent jaloux? Et puis, J'ai eu des réponses magnifiques, je vais vous les partager. J'en ai eu 4. Alors, 1, je me sens mieux si je pense à quelque chose de bon qui va arriver bientôt. Ou bien, je me sens mieux si je me réjouis des choses que mes amis ont reçues. Ou bien, je me sens mieux si je dis que je suis jaloux et les gens comprennent mieux ce que je ressens. Et puis, la dernière, c'est celle que j'affectionne particulièrement. Quand je deviens jaloux, je me sens mieux si je me souviens de toutes les bonnes choses que j'ai. Donc, nous avons, voilà, la jalousie vient de ce que l'on choisit de compter les bénédictions des autres au lieu de compter les nôtres. Alors, je vous invite à garder cette petite phrase en tête aujourd'hui. Les enfants, ben, je me réjouis pour vous, pour votre accrobranche. Même si je suis un peu jalouse, je vais réfléchir à tout ce que j'ai. Et moi, j'ai le privilège de rester ici avec vous, les adultes, pendant que les enfants vont partir. Alors, avant de les laisser partir, je vais proposer un chant qui parle de la bonté de Dieu pour moi et la bonté de Dieu pour toi. Et avant ça, j'allais oublier, les décorations que vous voyez là, le long des murs, ont été faites avec les enfants des Toons. Ils ont participé à faire ça il y a quelques semaines déjà. Donc voilà, vous pouvez les applaudir. Et puis, non, pas encore, c'est bientôt l'acrobranche. Petit à petit, des versets bibliques vont venir étoffer les exemples. Il y en a un tout au fond. Si jamais, pendant un culte, vous vous évadez un peu, vous avez toujours la possibilité d'apprendre un verset de la Bible par cœur. Voilà. Donc, c'est des versets qui vont être affichés pour refléter un peu les cultes qu'on vit, et la communauté qu'on vit. Alors, nous allons chanter « Dieu est bon pour moi » avec des gestes. « Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. » OK ? Puis après, on fera « Dieu est bon pour toi. » D'accord. Et on finit par « Dieu est bon pour nous. » Donc, on va faire 2 fois chacun. On y arrive, là ? « Dieu est bon pour moi 2 fois, Dieu est bon pour toi 2 fois, Dieu est bon pour nous 2 fois. » On y va.
Dieu est bon pour moi, il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il me soutient, il me soutient. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour toi, il prend ta main. Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour toi, il te donne, il te soutient, Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour nous, Dieu est bon pour nous, il prend ma main, il me soutient, Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous, Dieu est bon pour nous, il prend ma main, il me soutient, Dieu est bon pour nous.
Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors j'aimerais prier pour remettre la journée des potes du dimanche, donc des enfants. Et puis comme ça, on peut les envoyer. Seigneur Jésus, merci parce qu'on a des enfants dans cette église. Merci parce qu'ils ont le privilège de passer une belle journée ensemble aujourd'hui. J'aimerais te remettre les enfants, les moniteurs. Merci pour le temps que les moniteurs prennent pour être avec nos enfants, pour ce modèle qu'ils sont. Et j'aimerais te demander de les bénir, de les accompagner sur la route, dans les arbres. Et qu'ils puissent revenir avec plein de bons souvenirs et beaucoup de joie dans le cœur. On aimerait nous réjouir avec eux. Amen. Alors voilà les potes. Bonne journée. Merci. Au revoir. Voilà, alors nous allons enchaîner avec un moment de louange. Je passe la parole à David.
Merci Séverine pour cette introduction de culte qui est déjà tout un programme en soi. Hein. Et c'est vrai que dans certains sentiments, de louer le Seigneur, c'est aussi un acte de volonté. C'est pas toujours spontané, c'est pas toujours, ça vient pas toujours facilement, mais c'est des fois un acte spontané. Et puis notamment quand on a ces sentiments un peu plus difficiles de jalousie ou de tristesse. Et voilà, c'est vrai qu'on a eu cette semaine très contrastée dans l'Église. Et ce matin, je vous invite à prendre la décision de louer le Seigneur, parce que lui, il ne change pas et lui, il reste toujours à notre écoute. Il connaît nos situations personnelles de chacun. Alors voilà, je vous invite à ce moment de louange où on peut l'écouter. Et c'est vrai qu'en lien avec le thème du culte, mais aussi en écho avec cette semaine, j'ai choisi des chants qui vont dire plutôt notre confiance au Seigneur, qui vont demander à Dieu du réconfort et puis de la persévérance dans notre engagement, dans notre foi. Voilà, nous pouvons être sûrs que Dieu, il écoute et il répond. Alors rendons-lui hommage et rendons-lui gloire, soyons reconnaissants de sa grandeur. Et on va chanter un premier chant, quand le peuple de Dieu se retrouve, eh bien Jésus, il est là, il est au milieu de nous.
Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent, que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là.
Je lis un verset dans Hébreux 10. Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. Et nous chantons ce chant qui s'élève pour le Seigneur. Hosanna.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi.
Celui qui relève les cœurs. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Seigneur, pour ta présence. Merci de venir comme ça, si près de nous, quand on est dans le doute, quand on est dans des sentiments bizarres. Merci Seigneur, tu es le Dieu de notre espoir. Et je vous propose de prendre encore un chant qui est tiré du psaume 119, qui est bien connu. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier. Parce que je crois que voilà, tout ce que le culte de tout à l'heure va être basé sur la parole, mais si on peut baser toutes nos journées sur la parole et sur sa lecture, c'est un encouragement.
Le texte qui sert de base à la prédication de ce matin, c'est le psaume 73 dans son intégralité. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sortent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs et ils parlent méchamment. Et sur un ton hautain, menaçant d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langage sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il ? Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis restée pure, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtiée chaque matin. Si je disais « parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mise à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entrée dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, ou une sotte, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres.
Bonjour à chacun, chacune. Merci, Séverine, pour la présidence de ce matin. Blaise, nous voulons te redire en assemblée notre vive affection. Et tu sais que tu es et que tu restes dans nos prières. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de saluer Roger et Dominique Sowell qui sont avec nous pour ce week-end. Ne les manquez pas, ne les manquez pas. Qu'aimons-nous raconter de notre foi ? Qu'aimons-nous raconter de notre foi ? Ma petite expérience du monde évangélique me fait dire que la palme d'or de ce que nous aimons raconter de notre foi revient plutôt aux grandes expériences, à ce qui semble être de grande délivrance. Nous pensons que ces grandes expériences, ces belles délivrances, font à elles seules apparaître la grandeur et la fidélité de Dieu. Qu'aimons-nous raconter de notre foi ? Je me souviens d'une belle soirée partagée il y a quelque temps déjà, avec d'autres chrétiens. Et au cours de cette soirée, une jeune femme chrétienne, engagée depuis de longues années dans l'œuvre du Seigneur, avait raconté très librement qu'il lui arrivait de connaître des moments de profond découragement. Elle ne maîtrisait pas ces moments-là. Mais elle nous disait que dans tout ce qu'elle vivait, même si c'était dur, jamais elle n'avait été abandonnée. Et je sais que beaucoup ont été très encouragés par ce qu'ils sont entendus ce soir-là, j'en suis. Il me semble que c'est toute la valeur d'un témoignage simple, un témoignage honnête, un témoignage ancré dans le réel, ancré dans le réel, comme celui dont Séverine nous a fait la lecture tout à l'heure, le psaume 73, un témoignage ancré dans le réel. Versets 1 à 3, un rien et je tombais, j'étais jaloux. Pas de l'acrobranche, bien que. Mais j'étais jaloux des arrogants. J'enviais, dit le psalmiste, ceux qui vivent sans Dieu. Le psalmiste, en l'occurrence, c'est pas David. C'est Asaph, le leader de la louange. Et le leader de la louange à l'honnêteté de dire un rien et je tombais. J'aimerais juste dire combien j'apprécie les temps de louange que nous vivons ici, qui ne sont pas juste des chants de victoire et de gloire, mais des moments qui sont ancrés dans le réel. Triche pas. Asaph, le leader louange du peuple d'Israël, et c'est pas rien, quand on voyait l'équipe musicale, les choristes, ce leader louange, dans un des rares psaumes, deux à ma connaissance, qu'il a écrit, dit « Un rien et je tombais. » J'étais jaloux. J'enviais ceux qui vivent sans Dieu. Un leader louange qui dit ça, c'est intéressant. Hein. J'enviais ceux qui vivent sans Dieu. Qui ose avouer ce genre de pensée? Un bon chrétien ne pense pas ça. Ou s'il le pense, il ne le dit pas. Mais voilà, la Bible est beaucoup plus vraie. Et du coup, elle est plus rafraîchissante. Elle nous dit que oui, de très bons croyants ont pensé cela, qu'ils l'ont exprimé. Pour certains, il s'en est même fallu d'un cheveu pour qu'il ne tombe. Et quand on dit ça dans le peuple de Dieu, alors tout devient plus reposant, tout devient plus authentique. Quelqu'un qui aime Dieu peut avoir des états d'âme. Quelqu'un qui aime Dieu peut avoir des moments où il ne sait plus où il en est. C'est possible. Et Dieu ne laisse pas tomber ses enfants pour autant. Et j'apprécie personnellement que la Bible porte cette marque de la vérité. La vérité du vécu, la vérité de l'expérience, la vérité des chemins de la foi qui sont exigeants parfois. J'étais jaloux de ceux qui vivent sans Dieu. J'étais jaloux de ceux qui vivent sans Dieu. Il n'est donc pas toujours facile de vivre en tant que croyant. La foi implique des exigences de vie. L'obéissance ne paye pas toujours tout de suite. Parfois, il y a des délais. Notre foi elle-même peut être malmenée par ce que nous vivons. Pour ceux qui ne croient pas, tout peut sembler plus simple. Et quand on les observe, il devient facile de glisser. Pas forcément en reniant la foi, mais en la délaissant. En mettant de côté la présence de Dieu, l'écoute de Dieu. Et en tous les cas, l'auteur de notre psaume s'est débattu pendant tout un temps avec de vraies turbulences intérieures. Il compare donc l'insouciance, la facilité des gens sans Dieu, ni foi, ni loi, et les propres difficultés de sa vie à lui. Il a observé la réussite des méchants. Je crois qu'on a un petit souci de PowerPoint ce matin. Il viendra après celui-ci, Thierry. Mais je crois que je ne peux pas reculer, moi. Ce n'est pas grave. Il a donc observé la réussite des méchants. Il l'a constaté, la réussite des méchants. Il l'a envié, la réussite des méchants. Regardez dans les versets 4 à 11. Il a vu l'éclatante santé des uns. Il a vu la facilité avec laquelle d'autres traversent la vie. Il a vu la fierté avec laquelle ils n'hésitent pas, ces méchants, à s'affirmer. La violence, la force du désir qui écrase tout. Il a observé leur arrogance verbale, leur manière de se moquer de tout et de tous, et même du ciel. Il a vu leur succès auprès des autres. On boit leurs paroles. Il a noté la manière dont ils défient Dieu, dont ils se moquent de Dieu. Dieu, verset 11, Dieu, mais que sait-il? Comment verrait-il? Et malgré cette arrogance, rien ne les arrête. La conclusion provisoire s'impose alors au verset 12. Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles. Ils accumulent des richesses. Ça, mes amis, ce n'est pas un discours qu'on se fait en 5 minutes. Hein. Ça, ce n'est pas un discours qu'on tient le temps d'un coup de cafard. C'est un état d'esprit qui s'est installé. C'est un angle du regard qui s'est pris et dans lequel on s'est enfermé. Le moindre fait nouveau réactive les circuits. Et ce n'est pas facile de s'en sortir. Quand on est pris dans ce genre de pensée, c'est pas facile de s'en sortir. Mais c'est possible. Et il me semble que le psaume que nous avons devant nous ce matin nous propose 3 pistes. La première, c'est de regarder vrai. La seconde, c'est de s'orienter vrai. Et la dernière, c'est de parler vrai. On va essayer de reprendre le PowerPoint. Regardez vrai. Regardez vrai. Quelle est la source du problème ici? Eh bien, il y a des faits. Les faits, c'est les difficultés d'un croyant fidèle, d'un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur, alors que d'autres, sans Dieu autour de lui, se portent à merveille. Lui, il est dans la dèche. Les autres vont bien. Ces réalités-là, elles existent, c'est sûr. Des chrétiens, des croyants qui plongent, alors que d'autres sans Dieu triomphent, ça existe. Mais il y a aussi le regard que l'on porte sur ces circonstances. Il y a l'état d'esprit avec lequel on reçoit ces circonstances. Après coup, d'ailleurs, après coup, l'auteur le reconnaît, verset 3. J'étais jaloux. Ça, c'est le regard après coup. Verset 21, j'avais le cœur amer. Ces sentiments, dit-il, s'étaient insinués. Il radicalisait son regard. Probablement, cela avait fragilisé, distendu sa relation avec Dieu. Et du coup, il n'y avait plus rien pour contrebalancer les sentiments négatifs. Quand on reçoit ce témoignage-là, nous n'avons pas à juger. Mais il nous faut reconnaître qu'il est possible de nous laisser envahir par l'amertume, par la jalousie, par la comparaison, par l'apitoiement sur soi. Que penser alors de ce regard sur les hommes sans Dieu? Eh bien, ce regard sur les hommes sans Dieu, il a, à mon sens, une part de vérité. Plusieurs s'imposent dans la vie par des moyens inacceptables, plusieurs réussissent dans la vie avec une arrogance qui choque. Mais cette part de vérité, il faut dire en même temps qu'elle est sélective. Parce qu'il y a aussi des violents qui périssent par leur violence. Il y a aussi des méchants qui ne réussissent pas. Il y a aussi des gens sans Dieu qui ne sont pas arrogants. Et parmi eux, des gens qui souffrent également. Donc, dire que les méchants réussissent toujours tranquilles alors que les fidèles sont châtiés chaque matin, versets 12 à 15, franchement, c'est un peu exagéré. C'est un peu biaisé. Mais je suis étonné de voir comment on pense que c'est plus facile pour les autres. On regarde et on se dit, waouh, pour lui, pour elle, tout roule. Mais c'est qu'on ne connaît pas tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Nous, on les voit de l'extérieur et on sélectionne ce qui nous arrange, ce qui vient soutenir notre propos. Ici, il me semble donc que l'auteur traverse une vraie période de souffrance. Au verset 14, il faut lire ces mots. Il parle d'être chaque jour frappé. Tous les matins, repris. La souffrance d'un croyant. Quand on souffre physiquement, moralement, il est difficile de supporter même la vue de ceux pour qui tout va bien. On devrait pouvoir se réjouir pour eux de ce qu'ils ne traversent pas la même chose que nous, mais la souffrance impose parfois un tel combat qu'on n'arrive pas à s'empêcher de se comparer, de se poser en victime parce qu'on a mal. C'est comme ça. Et ça, il faut en parler avec tact, avec lucidité. La souffrance, ça se respecte. Deuxièmement, s'orienter vrai. Ce psaume nous renvoie donc à toutes ces réalités. Mais, il est aussi le témoignage fort qu'on peut sortir de ces enfermements, qu'on peut sortir de l'aigreur. Qu'est-ce qui permet cette sortie? L'auteur laisse entendre qu'il a été tenté de tout lâcher. Il y a une petite expression qui en dit long. Verset 15. « Si j'avais dit, je vais parler comme eux. » Si j'avais dit. Ah, il a été à un cheveu de s'affranchir de la fidélité de Dieu. Qu'est-ce qu'il a retenu? Verset 15. « Si j'avais parlé comme eux, alors, j'aurais trahi mon peuple, j'aurais trahi tes fils, tes enfants. » La motivation, là, elle peut sembler courte, mais elle est importante. C'est la solidarité humaine qui l'a empêché de glisser. Ce n'est pas la crainte de trahir le Seigneur, c'est la solidarité humaine. Son honnêteté, elle me parle ici. Nous pouvons être parfois tellement chamboulé dans la vie que nous faisons avec les quelques repères qu'il nous reste. Du style, je ne peux pas décevoir telle personne. Ces gens-là, ont tellement fait pour moi. Je ne peux pas les laisser tomber. J'appartiens à cette famille spirituelle. Je ne peux pas leur faire du mal. En langage théologique, on appelle cela les moyens externes par lesquels Dieu nous maintient en grâce. Calvin. Mais ces moyens externes, ils comptent. Le peuple de Dieu, quand je coule, ils comptent. Mes frères et sœurs en la foi, aînés ou plus jeunes, ils comptent. Bien sûr qu'il faudra aller plus loin, mais parfois il y a juste ça. Et juste ça, c'est utile. Considérons donc ce garde-fou du sentiment d'appartenance comme un cadeau de Dieu. Au passage, on découvre ici la valeur des liens qui nous unissent les uns aux autres. Il dit, si je ne les avais pas eus, si j'avais été seul, j'aurais glissé. Être bien relié, c'est une aide, c'est une sécurité. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, unis à toujours par une chaîne d'amour. Parfois, il n'y a pas plus que ça. Et ici, pendant tout un temps, ce sentiment d'appartenance a préservé notre homme. La difficulté a été grande à mes yeux. Et cela a duré jusqu'au jour où j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Ce jusqu'au jour où, il est très encourageant aussi. Il rappelle que Dieu, qui permet des temps de flottement dans nos vies, a aussi une porte de sortie. Ce jusqu'au jour où il est instructif. Si pendant tout un temps, on peut se contenter des moyens extérieurs comme un sentiment d'appartenance, à un moment donné, il faut se retrouver soi-même devant Dieu, sur les bases d'une foi personnelle renouvelée. Qu'est-ce qui produit le déclic ? Jusqu'au jour où j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'au jour où je suis allé dans le temple de l'Éternel. Et là, j'ai considéré le sort final des méchants. Il a donc fallu que notre homme s'approche de Dieu, qu'il entre dans la présence de Dieu ou qu'il revienne dans la présence de Dieu. C'est ce qui signifie pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. On ne sait pas s'il est allé physiquement dans le temple, probablement comme leader louange. C'est possible. Mais le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas forcément le temple. Le sanctuaire de Dieu, parfois, c'est juste notre cœur. L'intimité avec Dieu. Juste une petite prière personnelle. L'intériorité. Mais il a fallu une rencontre. Et cette rencontre, pour lui, elle a apporté la lumière, la paix, l'intelligence du cœur. Le témoignage ne nous dit pas comment ni quand cela se passe, mais il nous dit que le Seigneur est bon pour les siens et qu'au temps favorable, le Seigneur sait nous remettre d'aplomb. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Qu'est-ce qui a permis de se rétablir, de retrouver une assise ? Eh bien, c'est de considérer le sort final de ceux qui vivent sans Dieu, verset 18. Et ce sort final, dit notre psalmiste, c'est la ruine. En un instant, tout s'inversera. Ceux qui vivent sans Dieu seront face à Dieu, le Seigneur. Plus de place alors pour la moindre arrogance. Leurs agissements seront mis en évidence. La parfaite justice de Dieu se prononcera ce jour-là. Verset 20, « Tu repousseras leur image. » Du coup, tout s'inverse. Ces méchants que l'on voit aujourd'hui triomphants, sur la pente de la réussite, du bonheur, eh bien, ils sont en fait sur un terrain instable, glissant. Une pente, nous dit le texte, qui les mène à la perdition, loin du regard de Dieu. Tu repousseras leur image loin de toi. Vous savez, je crois qu'on doit arrêter de calculer la valeur d'une vie dans l'immédiateté. C'est l'aboutissement des choses qui donne la vérité des choses. C'est pourquoi on a besoin de savoir regarder plus loin que l'apparence et l'immédiat. Pour notre homme, en tous les cas, c'est ce qui lui a permis de se retrouver, le rétablissement de toute chose. Une vue longue sur la souveraineté de Dieu, pas dans l'esprit d'une satisfaction revancharde, mais d'un coup, c'est briser le mirage de l'envie qu'il portait aux méchants. Et quand l'amertume se dissipe, alors jaillissent à nouveau le chant et la joie d'appartenir à Dieu. Et je crois que nous avons besoin de cultiver aujourd'hui encore cette perspective éternelle des choses, pas juste l'immédiat. Nous faisons des choix de vie qui peuvent nous sembler coûteux par rapport à ceux qui ne se réclament pas de Dieu. Regardez, un dimanche matin, qu'est-ce que vous faites là? Votre libéralité, elle ne serait pas mieux dans votre poche, dans les vacances? Nous faisons des choix de vie qui peuvent sembler coûteux par rapport à ceux qui ne se réclament pas de Dieu. Comment ne pas tomber alors dans une sorte de vie chrétienne grincheuse, cynique, revendicatrice? Eh bien, en valorisant ce que Dieu nous donne maintenant, pour la vie présente, pour la vie future. Bien sûr que nous connaissons et nous connaîtrons des épreuves, des deuils, des temps de doute, des remises en question, bien sûr. Comment est-ce que nous pouvons les aborder comme chrétiens, comme chrétiennes? Eh bien, en gardant au fond de nous cette bonne part qui nous est acquise et que personne ne peut nous ravir. Notre Dieu est riche pour nous des perspectives inouïes qu'il nous prépare. Parlez vrai, finalement. Parlez vrai. Pour le croyant de notre psaume, développer ce regard neuf, c'est à ce moment-là une immense libération. C'est comme si un voile est soudain ôté. Il peut à nouveau se regarder dans la lumière de ce que Dieu lui donne. Il redécouvre les couleurs de sa vie. Il retrouve d'abord ce qui fait le fil conducteur de sa vie. C'est une présence passée, présente, future. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. La vraie lumière d'une vie, c'est d'être aimé, c'est d'être accompagné, c'est d'être saisi, c'est d'être conduit, et finalement ce sera d'être reçu. Pendant tout un temps, il a été tellement malheureux. Mais il sait maintenant que l'amertume qui s'était glissée, que l'ingratitude l'avait envahi, il sait que le Seigneur ne l'a pas oublié. Et là, c'est l'émerveillement du verset 23. Je suis toujours avec toi. Tu ne m'as pas lâché. Tu as su me garder. Tu as su me ramener. Je suis toujours avec toi. Et je trouve qu'il y a là finalement une belle promesse. Malgré nos défaillances, malgré nos faiblesses, Dieu reste le rocher sur lequel nous pouvons encore et malgré tout toujours nous appuyer. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Parole d'expérience, dans la droite ligne de ce qu'il vient de vivre. Parole de foi aussi, cette foi heureuse qu'il vient de retrouver. Et du coup, jaillissent des mots qu'on n'aurait jamais espérés au début de la lecture de ce psaume. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Qui aurait cru ça au début du psaume ? J'étais à un doigt de glisser, à un cheveu de perdre pied. J'étais jaloux, j'enviais les autres. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Mon bonheur. Il y a donc un bonheur à vivre maintenant. Maintenant. Malgré les réalités exigeantes de l'existence, au cœur des situations délicates que nous traversons face aux réussites des autres, qui parfois nous interpellent, nous choquent. Un bonheur à vivre aujourd'hui. Et des œuvres à attendre. Encore et encore de la part de Dieu. Je raconterai des œuvres. Ce n'est plus j'envie les autres, mais je raconterai. Je conclus. Il a fallu ce chemin. Il a fallu ce chemin, regarder vrai, s'orienter vrai. Parler vrai. La foi retrouvée, elle ouvre sur l'espérance. La foi retrouvée, elle ouvre sur l'attente des bontés que le Seigneur a en réserve pour nous. La foi retrouvée ouvre sur l'envie de témoigner de ce que Dieu fera encore. Et c'est cette envie de témoigner qui nous vaut finalement ce psaume, bruissant d'authenticité et porteur d'une si belle lumière. La chaîne des témoins, elle continue, elle n'attend que nous, en toute authenticité, pour la gloire d'un Dieu qui vient s'attester jusque dans les méandres de nos vies. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de toi, Seigneur. Amen.
Alors pour poursuivre ce moment, je vais vous proposer deux moments de réflexion. Un premier moment où je me suis un petit peu inspirée de ce que Philippe a dit, regarder vrai, s'orienter vrai, parler vrai. Tout comme le témoignage du psalmiste qui nous encourage finalement, je vous propose de faire un exercice pour nous encourager les uns les autres. Alors vous avez reçu sur les chaises des petits papiers jaunes. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez en prendre un qui traîne. Il y en a quelques-uns devant. Ou un autre morceau de papier. Je vous invite à réfléchir à un moment dans votre vie où votre pied a failli chanceler et où vous vous êtes accroché à Dieu. Et si vous êtes d'accord de le partager, ça peut rester anonyme bien sûr, de l'écrire sur ce morceau de papier jaune que vous avez devant vous. Et puis ensuite, pendant l'offrande, l'offrande va passer, mais je vais aussi faire circuler des paniers. Et vous pourrez déposer cette petite carte jaune dans un des paniers qui passent, comme cadeau pour quelqu'un de l'assemblée. Comme témoignage de dire, ben voilà, il a fallu un cheveu et je ne suis pas tombée grâce à Dieu. Et puis à la sortie du culte, ben je vous invite à piocher un petit papier jaune qui n'est pas le vôtre. Il y a quand même peu de probabilité que vous tombiez sur le vôtre. Et puis que vous puissiez partir avec ça et que ça puisse vous encourager dans votre foi de dire que, voilà, parmi nos frères et sœurs, authentiques, il y a eu des moments où on a failli chanceler. Et puis des moments où justement on a pu s'accrocher à Dieu. Donc ça, c'est un petit exercice que je vous propose de faire maintenant. Je vous donne quelques minutes. En toute liberté, bien sûr. Vous avez besoin de stylo? J'en ai un. Alors, ce que vous avez écrit, comme je l'ai dit, ça peut rester anonyme. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aussi signer. La deuxième réflexion que je vous propose, c'est sommes-nous ou avons-nous été ancrés ou enfermés dans un état d'esprit d'envie, de regard envieux, de jalousie ou de comparaison, voire d'apitoiement sur nous? Donc ça, c'est peut-être une situation dans laquelle on s'est trouvé ou on se trouve encore. Et puis de vous inviter à réfléchir, comment est-ce que cette situation influence ma relation aux autres? Et puis comment est-ce qu'elle influence ma relation à Dieu? Et j'aimerais apporter un petit témoignage. La semaine passée, j'ai eu l'immense privilège de participer à une retraite à Pentecôte, à Lyon, avec 160 femmes et une oratrice qui s'appelait Anne Voskamp, qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule, de plusieurs livres, mais dont, notamment un qui m'avait beaucoup touchée, 1000 cadeaux. Et puis, elle nous a apporté un message incroyable sur nos brisures et comme quoi dans la vie, on a des brisures, on a tous des brisures. Et donc, on a chacune été invitée à prendre un morceau de verre. Ils étaient multicolores, comme ça, il fallait choisir un morceau qui nous parlait. Et puis, à un moment donné, on a été invités à les déposer, ces brisures. Ça devait représenter un moment difficile dans notre vie qu'on était prêt à déposer. On les a déposées sur des fenêtres. Alors, Thierry, il y a quelques images. Voilà. Chacune a pu déposer des brisures ensemble sur des panneaux comme ça. Et puis, c'était magnifique de voir 160 personnes déposer tout ça. Et puis, donc, il y avait plusieurs panneaux différents. Voilà, toutes ces pièces des douleurs de vie rassemblées. Et voilà, à la fin, eh bien, ça a été assemblé ensemble pour faire un vitrail. Et en fait, le message qui était passé là-dedans, c'est de dire à travers nos brisures, nos difficultés, quand on les dépose et quand on est aussi prêt à en parler, le Seigneur, il peut faire des choses magnifiques, il peut rayonner à travers ça. Et on voit, pas très bien, mais sur la table, là, il y a le reflet de ces brisures sur la table, qui est plutôt moche. Et du coup, ça, voilà, le message, c'était ça. À travers nos brisures, eh bien, le Seigneur, il peut transformer tout ça en bénédiction pour nous, mais aussi pour les autres. Alors, j'introduis le moment de Sainte-Cène avec ça. Si vous avez quelque chose à déposer, je vous invite à le faire dans votre cœur. Il y a aussi Philippe et Claude qui sont à disposition à la fin du culte si quelqu'un a besoin de prier. Mais voilà, Jésus, il est mort sur la croix pour nous, pour prendre toutes ces brisures, pour les porter à notre place. Et ce qu'il en résulte, ben, c'est un reflet magnifique d'authenticité de notre part et qui, voilà, nous sommes témoins de lui. Il peut rayonner à travers nos difficultés. Donc j'invite Philippe à me rejoindre pour le moment de Sainte-Cène. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir souper, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que ce moment de Sainte-Cène puisse être un rappel que Jésus, il a été brisé pour nous et qu'à travers cette brisure, il a pu rayonner et puis qu'il a porté tous nos fardeaux à la croix pour nous et que grâce à ça, à cette grâce, eh bien, nous aussi, on peut rayonner pour lui. Alors, on aurait besoin de 3 volontaires pour nous aider à distribuer la scène. Et puis, pendant ce temps, je vous invite, si vous le souhaitez, à exprimer des prières à haute voix. Sentez-vous libre. Sur les plateaux, vous avez du jus de raisin au centre et le vin autour. Et si jamais quelqu'un souhaite la coupe, vous faites signe et puis je viens vers vous.
Seigneur, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que je viens devant toi ce matin. Merci parce que tu as envoyé ton Fils sur la terre pour nous. Et merci que parce que c'est par ta grâce que nous pouvons rester auprès de toi tous les jours. Amen. Alors nous allons passer un moment d'offrande. Pendant ce temps, le groupe Louange va nous proposer un chant. Alors, on a deux offrandes différentes ce matin. On a donc l'offrande des petits papiers jaunes et puis l'offrande pour la communauté, pour l'avancement du royaume.
Donc on va prendre le chant « Ô Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours » le 467. Merci.
Ô Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours, donne-moi de ressentir tout ton amour. Tu es mort pour moi, tu as souffert, tu as payé, et je peux vivre en toi, il est né. Ton amour, ô Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours.
Seigneur, merci parce que nous pouvons être généreux à notre tour avec tout ce que tu nous donnes. Merci de nous aider à toujours donner d'un cœur généreux et pur et de voir les bénédictions dans notre vie plutôt que de seulement regarder celles dans la vie des autres. Merci parce que tu bénis abondamment. Amen. C'est le moment des annonces. Est-ce que Michel est là? Oui, il est chargé.
Voilà, les annonces du jour. Alors, mardi, il y a le deuxième volet de la troisième série, « Comment intégrer du visuel dans un culte ?» avec Henri Bachet, ce mardi. Vendredi 1er juin, Ethnopolis, pensez-y dans vos prières, il y a un poste ici, il y a un poste au CEPOM, notre église est engagée dans les deux postes, je crois que c'est complet, là. Il n'y a plus besoin de chercher des gens, c'est bien. Voilà, des fois quand on fait des annonces, les gens répondent, c'est super, merci. Samedi 2 juin, une journée ouverte à tous, organisée par le réseau des scientifiques évangéliques, le meilleur des mondes robotique, à l'église La Fraternelle à Nyon. Samedi 2 juin, vous voyez, c'est toute la journée. Vous voulez plus d'informations, Sylvain Dupertuis, qui était au piano aujourd'hui, sera à votre disposition. Et dimanche 3 juin, un culte famille pour tous, un culte où vous pouvez aussi inviter des familles amies pour leur faire découvrir qu'est-ce que c'est la Bible. Dimanche 17 juin, nous aurons la joie de fêter un culte avec des baptêmes. Philippe Anchaud, Claude Bécher sont à votre disposition si vous souhaitez des informations. Et lundi 25 juin, un colloque, une assemblée générale avec l'élection du conseil. Et je vous rappelle que pour participer à cette élection, il faut être inscrit sur la liste des électeurs, que vous pouvez le faire si vous adhérez à la confession de foi, si vous êtes engagé dans l'Église et si vous êtes en suivance du Christ. Et le dernier jour pour le faire, c'est aujourd'hui, 27 mai. Encore une information, la rénovation de la chapelle, voilà, on a lancé le projet, on a voté pour le faire, on vous invite à participer au financement des travaux, soit en participant financièrement, vous avez là une feuille pour vous inscrire, elle est déposée dans le présentoir qui est à la sortie. Vous pouvez aussi participer en travaillant, en offrant du temps pour réaliser cette rénovation. Alors on vous engage à faire bon accueil à cette demande et à vous inscrire. Et puis une dernière information, il y a à la sortie ce bac avec les enveloppes dans lesquelles il y a le programme de l'Église. Alors, ceux qui sont inscrits l'ont reçu par email, et c'est toujours possible de s'inscrire pour recevoir par email les informations de l'Église. Vous n'avez qu'à venir vers moi et me donner vos coordonnées. Si vous êtes, par contre, éligible à un envoi postal, il y en a encore, eh bien, les enveloppes sont ici, et merci de les prendre, ça évite des frais pour les envoyer. Voilà. Et puis, dernière information, il y a dans le foyer une exposition sur la personne et le travail et l'œuvre de Martin Luther King. C'est une exposition qui a été créée par l'église de Saint-Genis et qui est mise à notre disposition. Elle servira entre autres pour Ethnopolis, mais voilà, c'est intéressant de découvrir cette personne. Une fois encore, ce n'est pas la première fois dont on entend parler de Martin Luther King, mais c'est un éclairage vraiment bien fait et intéressant. Je vous invite à prendre du temps pour lire ces panneaux. Merci. L'exposition sera ici pendant 15 jours.
Le 9 juin, il y a la rencontre générale de la Frée à l'église de la Pélisserie, et ils auraient besoin d'un petit peu d'aide pour préparer des tresses pour le petit déjeuner du matin, et de mémoire, il y avait quelque chose pour le repas aussi, ou un peu d'aide pour la journée. Si vous êtes dispo pour donner un coup de main pour ce samedi 9 juin à l'église de la Pélisserie, Genève Centre, venez me voir ou voir Claude, et puis on relayera votre disponibilité. Merci beaucoup.
Encore un petit peu de publicité pour la pièce de théâtre L'autre Dieu, parce qu'ils vont se présenter le 1er juin à l'église de l'Oratoire. Pour ceux et celles qui aimeraient revoir cette pièce ou qui n'ont pas pu être présents lors du moment où ça a eu lieu ici à l'église, 1er juin, église de l'Oratoire. Voilà. Et puis dimanche prochain, il y a un repas après le culte. Oui, un repas après le culte dimanche prochain aussi. Voilà, alors j'ai le privilège de faire le moment de la bénédiction. Je vais m'appuyer sur le psaume 73. Je vous invite à vous lever. Je vais paraphraser le verset 26. Votre corps peut s'épuiser et votre cœur défaillir. Dieu reste votre rocher et votre bien précieux pour toujours. Votre bonheur à vous, c'est d'être toujours près de Dieu. Que ces paroles puissent vous accompagner cette semaine. Amen. Bonne semaine.